Gaudete. Réjouissez-vous. Qu'il se réjouisse le désert, la terre aride. Et dans les livres liturgiques, quand on nous présente le dimanche de Gaudete, alors voilà, on a mis le curé en rose pour dire le temps difficile de l'Avent, et on va, il est un peu atténué, et c'est un temps de joie. Mais comment va-t-on vivre cette joie? Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour dire « nous sommes joyeux ». Il ne s'agit pas, et ce n'est pas ce que propose le Seigneur, d'une joie passagère, comme la joie qui vient des jeux, une victoire au football, ou un jour comme ça de sapin de Noël avec des cadeaux en dessous, et puis le lendemain nous rentrons dans les mêmes difficultés. Le désert, la terre aride. Le texte d'Isaïe qui nous est présenté et que j'aimerais que, au lieu de l'écouter aussi en passant, nous puissions nous l'approprier. C'est un temps du prophète Isaïe, un temps difficile. Ça vient, c'est comme un texte qui vient, il y a une succession de textes dans les passages, dans la partie où on est, où on annonce, on décrit les moments terribles que l'on vit et les catastrophes qui vont arriver, et en même temps des moments de soulagement. Ici, à la fin de cette partie, eh bien, il y a ce moment de soulagement. On a du mal à dater ce passage. Hein, parce que c'est un texte qui annonce la fin, qui n'est pas là pour tout de suite. Alors, est-ce que simplement une fin, la joie, elle est pour demain, la joie, mais en attendant, non. La joie dans l'Esprit Saint, la vie chrétienne, c'est la joie aujourd'hui. Mais comment faire pour se réjouir, pour porter cette joie? Quelle est cette joie? Au ce temps, donc, du temps d'Isaïe, on peut le mettre au temps du roi Ézéchias, un moment terrible où les armées d'Assyrie, le nord de l'Irak aujourd'hui, eh bien, sont en train d'envahir, ont déporté quelques années plus tôt, une vingtaine d'années plus tôt, ont déporté le royaume du nord et les pays alentour, où le pays même de Juda, d'où est Isaïe et le roi, eh bien, est envahi, et c'est la destruction. Toutes les villes autour sont détruites. Il ne reste que Jérusalem qui est maintenant assiégée. Des temps de bouleversement terribles. Et il nous est annoncé cette joie, le Seigneur qui vient. On pourrait replacer aussi ce texte qui visiblement est plus tardif et ressemble, et comme un obus tombé un peu à côté qui mériterait plus d'être dans la suite d'Isaïe, des livres de consolation dont les mots dans la littérature est plus proche. Mais c'est la même chose, c'est le temps de l'exil. Ou alors là, quelques années après, eh bien, c'est vraiment tout le pays de Juda lui-même qui a été déporté. Alors, comment oser cette joie? Et dans nos temps, dans les bouleversements que nous vivons, qu'ils soient ecclésiaux, politiques, nationaux, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient climatiques, comment entendre cet appel à la joie auquel nous sommes appelés à nous hisser? Comment un tel texte peut nous nourrir, non pas dans une émotion religieuse passagère, mais profondément? Comme le témoigne Jean-Baptiste, les tristesses des jours, il est en prison, et Jésus, finalement, peut-être ne correspond, au moins pour lui ou pour ses disciples, ne correspond pas à ce qu'il avait imaginé de la remise en ordre du pays. Les tristesses de ces jours, les effondrements des valeurs, des institutions, les doutes que ce soit possible, que ce changement tant attendu et semble l'emporter. Alors, es-tu celui qui doit venir ? Est-ce que Jésus est celui qui doit venir et qui vient et qui peut réjouir notre cœur? Ou devons-nous en entendre un autre et mettre nos espérances ailleurs? Le temps n'est-il pas venu du doute, de la plainte, comme au temps d'Isaïe, aux gémissements les uns sur les autres, ne sachant plus à qui se fier, comme le note Saint Jacques dans la fin de la lettre qui nous est donnée à méditer aujourd'hui aussi? En méditant ce texte d'Isaïe, je me suis arrêté sur un mot qui est traduit ici par « dites aux gens qui s'affolent ». Le mot qui est ici, on pourrait, bon, c'est une bonne traduction, mais le mot original, c'est un adjectif substantivé à partir de l'adjectif « vite », « maer ». Et on ne dit pas les gens qui s'affolent, on dit les pressés de cœur. Les pressés de cœur. Nous sommes dans une civilisation où tout doit venir, tout doit se régler vite. Et donc, qui veulent, on fait une prière, et le Seigneur doit nous exaucer, il doit changer, il doit se ranger à nos désirs. Et puis, si ça ne change pas, si ça ne correspond pas à notre attente, eh bien, nous perdons espoir, nous perdons confiance, nous perdons quelquefois cette relation à Dieu. C'est d'ailleurs l'argument le plus fort dans le judaïsme d'aujourd'hui pour ne pas accepter, pour ne pas accueillir Jésus. En disant, vous dites qu'il est le Messie, mais regardez, le monde est toujours aussi terrible qu'hier. C'est aussi beaucoup d'enfants qui prient pour que leur grand-mère guérisse et elle n'est pas guérie. Alors, ça ne marche pas. Et nous risquons de petit à petit, dans notre espérance, d'être comme ces mains affaiblies, ces genoux qui fléchissent, ces mains défaillantes. Et là même aussi, les verbes sont très intéressants parce que c'est un peu les tentations qui nous guettent. Les mains défaillantes, le mot qui est dessous, il se dit par décliner, se désister, s'affaiblir, se fatiguer, perdre courage. Et les genoux qui fléchissent, le mot qui est derrière, il veut dire trébucher, s'affaiblir, se fatiguer, être renversé. Avec le mot, il est très proche de la cognée, d'un coup de marteau qui est donné, qui nous fait tomber, qui nous fait trébucher. Alors, nous avons la tentation de nous laisser couler dans la plainte, dans la critique. Et comme le note Saint Jacques, frères, ne gémissez pas les uns sur les autres, comme la critique est facile de tout ce qui ne correspond pas à ce que j'attends, à ce que je vois, à ce que je désire. Mais revenons à Isaïe. Il nous dit une chose incroyable. Qui est invité à se réjouir? C'est le désert. Qui est invité à rentrer dans cette joie, à exulter? C'est la terre desséchée. Cette terre desséchée que le psaume 63 reprend, 62, 63, reprend mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, comme une terre desséchée, épuisée, sans eau. Altéré, tsia, c'est le même mot ici que dans Jérémie. Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te désire. Voilà ce temps de l'Avent. Il nous est donné pour désirer. Il nous est donné pour ce temps de la prière qui est l'expression de notre désir. Ce que Jésus, dans toutes les guérisons, dans les miracles qu'il fait, de rendre la vue aux aveugles, de faire marcher ceux qui boitent, etc., il demande toujours quel est ton désir, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais foncièrement, de revenir au centre de cette force. Et le Notre Père, qui est notre prière fondamentale, ce sont toutes des demandes, comme pour orienter, comme pour harmoniser, régler notre désir, ce désir du royaume de Dieu. Soyez forts, ne craignez pas. J'entends dans ce passage la même chose que ce que Jésus nous dit dans la charte de l'Évangile, que sont les béatitudes. Qui est proclamé bienheureux? Qui est appelé à se réjouir? D'où va pouvoir jaillir la joie, la vie, le bonheur? Bienheureux les pauvres, bienheureux les affligés, bienheureux ceux qui ne se contentent pas de l'homme est un loup pour l'homme, mais qui travaillent pour être des artisans de paix, pour construire, pour bâtir la paix. Nous pensons que nous pouvons être joyeux parce que la vie va bien, parce que les choses vont bien. L'Évangile ne s'est jamais développé dans des temps d'abondance, dans des temps de force. Mais il s'est toujours développé dans les temps de difficulté, dans les temps de persécution. Pourquoi ? Parce qu'il est justement cette découverte, non pas cette joie éphémère, parce que Dieu n'est pas simplement... Alors voilà, je vais bien, donc ça va bien avec Dieu. Non, mais Dieu est celui qui vient, celui, il est notre espérance, il est cette force, il est celui qui est capable de faire jaillir du désert, des sources vives. Alors, le texte d'aujourd'hui, si vous avez un peu de curiosité, retournez dans votre Bible, ce chapitre 35, eh bien, on a supprimé une partie, mais parce que les textes ont été choisis il y a 50 ans, 60, 70 ans, dans la réforme liturgique, mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, eh bien, on prendrait la suite, parce que c'est que la terre, que les eaux jaillissent dans le désert, des torrents dans la Arava, vous savez. Alors c'est très concret parce que pour nous le désert c'est un peu imaginatif, mais le désert c'est aux portes de Jérusalem, hein, et c'est jusque la mer morte, et puis la Arava c'est ce qui descend de la mer morte, cette plaine complètement sèche et avec un lit de fleuve complètement sec, toujours, hein, qui descend jusqu'à Eilat. Et puis la terre brûlante qui se changera en joie. Le mot, c'est le vent d'est qui apporte la canicule. Hein, et voilà. Et puis la terre de la soif qui jaillit. Et il continue le texte parce que on est appelé, le Seigneur nous aide. Il est avec nous dans ce temps. Il est avec nous dans l'épreuve. Nous ne demandons pas à Dieu que le monde change, il soit autre, que la réalité soit autre. Mais dans la réalité, dans la difficulté, le Seigneur vient. Il est à notre côté. Il est proche. Il nous parle de cet amour infini qu'il a pour l'homme, pour tout homme, pour les hommes qui sont blessés, pour ses enfants qui sont blessés par le mal et qui sont mal. Alors, il vient. Et Jésus vient comme nous communiquer cet amour. Dans l'Eucharistie, nous recevons cet amour. Nous recevons le Seigneur. Nous recevons cette charge de toute ce poids, de tout cet amour du Seigneur qui vient dire, mais je suis avec toi. Et moi, je crois en toi. Je crois à la vie. Alors effectivement, est-ce que nous arriverons à avancer ? Nous avons tellement de mal à nous convertir. Nous avons tellement de mal. Est-ce que ça arrivera ? Eh bien, dans le texte, il continue, eh bien, je vais faire une route. Et Jésus est le chemin. Il est cette route qui nous est donnée. Si nous écoutons sa parole, si nous prenons au sérieux sa parole, non pas comme des consignes pour faire un beau fond poétique de notre vie, mais comme une règle de vie, quelque chose à mettre en œuvre, eh bien, nous allons découvrir, nous allons laisser sourdre cette vie, cette joie que le Seigneur a mis dans le cœur, parce que en affrontant les difficultés, en les passant avec le Christ, nous allons découvrir la vie. Notre grande tentation, c'est effectivement d'être dans les joies éphémères, d'être dans ce qui passe, mais c'est d'aller chercher cette joie. Alors il y a cette route, et puis le texte finit, ils reviendront ceux que le Seigneur a rachetés. Et ils arriveront à Sion avec des cris de joie. Ils reviendront, c'est-à-dire, il se convertira. Notre cœur peut changer. C'est ce changement de nos cœurs qui nous met dans la joie. Mais c'est l'œuvre du Seigneur que nous avons à accueillir. C'est sa présence que nous avons à tenir. C'est se vivre sous ce courant d'amour. Souvent, on se représente, quand on va se confesser, on se décharge d'un fardeau, et puis le Seigneur, on repart. Mais ce que le Seigneur vient faire, c'est de nous confirmer. Il ne vient pas juste pour que nous soyons bien psychologiquement déchargés d'un fardeau, non. Il vient pour que le flux de son amour passe à travers nous. La vie chrétienne et la joie chrétienne, c'est pas simplement de pouvoir être restitué dans la propre image que nous avons de nous-mêmes. Qu'importe, quelque part, l'image que nous avons de nous-mêmes. La seule chose importante, c'est est-ce que tu vas aimer comme tu es aimé infiniment de Dieu ? Est-ce que tu es juste dans la représentation, parce que Dieu est bien, moi je suis bien, enfin, etc., je suis libéré, etc. Non, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, est-ce que la grâce que tu as reçue, qui te sauve, qui te restaure, est-ce que tu sais la laisser passer ? Voilà pourquoi l'amour du prochain est tellement important. Et voilà cette vie. Et on a dans ce passage de l'Évangile cette phrase tellement belle. Les pauvres sont évangélisés. Voilà le signe du royaume. Est-ce que nous apportons cette bonne nouvelle de la vie plus forte que la mort, de la vie qui s'est poussée même dans le désert, qui s'est traversée les déserts pour arriver à la terre promise? Est-ce que nous savons l'annoncer, le présenter, ou est-ce que nous sommes dans la méfiance, dans le mépris des autres, dans la critique, etc., comme le dénonce encore Saint Jacques? Et pourquoi? Justement, il dit parce que le Seigneur est proche. Puissions-nous garder le Seigneur proche, non pas comme un fétiche que nous portons, mais comme un courant de vie qui nous traverse et qui inonde le monde. Amen.